RFJ Info.
Le journal de Vincent Jacquin.
Bonsoir. Un jeune Jurassien sur deux choisit désormais de passer son permis de conduire en automatique, car depuis 2 ans, cela n'empêche plus de conduire ensuite une voiture manuelle. Avec quelles conséquences pour les moniteurs d'auto-école ? On fait le point en ouverture de ce journal. Se diversifier pour passer le cap de la pandémie, c'est le choix du Stage Club de Delémont, qui dans le futur veut aussi accueillir des concerts, des humoristes ou encore des défilés de mode. Une négligence peut parfois coûter très cher. Il y a 2 ans, un homme perdait la vie dans l'incendie de son appartement à Bienne. Il a été entendu ce matin par la justice. La nuit sera calme et demain, c'est une journée de printemps qui nous attend, avec du soleil et jusqu'à 18 degrés en pleine. Ils sont nombreux, les Jurassiens, qui se présentent à l'examen avec une voiture automatique. Depuis 2 ans, passer son permis de conduire sans avoir jamais touché à un levier de vitesse n'exclut pas de conduire une manuelle par la suite. Et cette facilité séduit toujours plus d'élèves conducteurs, mais ce n'est pas sans conséquence non plus pour les moniteurs d'auto-école. Coraline Kempf.
Avant 2019, passer un permis avec une voiture automatique excluait de se mettre au volant d'un véhicule manuel. Il y a 2 ans, les choses ont changé. Passer son permis avec une voiture automatique permet de piloter tout véhicule. Ancien président de l'Association des professionnels de la sécurité routière, le moniteur d'auto-école Pascal Etienne a constaté des impacts directs dans la profession.
Alors maintenant, on remarque effectivement une augmentation constante du nombre de candidats qui font leur permis sur voiture automatique, évidemment. Déjà, d'une part, parce qu'à la maison, ils n'ont peut-être plus la possibilité de s'entraîner sur des voitures manuelles. Et puis, des fois, tout simplement parce qu'on fait évidemment un peu moins de leçons, c'est plus simple, donc le permis va plus vite, etc.
Et les chiffres confirment la tendance. En 2019, environ 35% des candidats jurassiens passaient leur permis avec une voiture automatique. Le pourcentage a grimpé à près de 50% en 2020. L'année en cours, la tendance paraît encore plus forte, selon Didier Bianchi, responsable de la section technique à l'Office des véhicules jurassiens. Cela implique son lot de changements pour les moniteurs d'auto-école. Pascal Etienne.
Donc il y aura effectivement moins de leçons, moins de travail dans notre profession, dû à l'arrivée déjà de la voiture électrique qui est toujours en voiture automatique.
Depuis la réforme il y a 2 ans, le nombre d'heures de conduite avec les élèves a donc baissé. Mais les moniteurs ont aussi dû s'adapter à la nouveauté en achetant un deuxième véhicule afin de pouvoir proposer des cours avec voiture manuelle et automatique. Certains se spécialisent déjà dans l'automatique selon Pascal Etienne.
Si on pense par exemple à la voiture électrique, comme j'ai dit tout à l'heure, elle ne se fait qu'en automatique et on sait que probablement vers 2025, 2030, elles représenteront en tout cas la moitié du parc automobile.
Un autre changement est intervenu en 2019. Le cours à 2 phases à faire après l'obtention du permis n'a plus lieu sur 2 jours, mais 1 seul. Résultat là encore, moins de travail pour les moniteurs. Mais Pascal Etienne voit plutôt la crise pointer à l'horizon, puisque divers autres changements, dont les cours de conduite possibles dès 17 ans, ont chargé les agendas des moniteurs. Une grande majorité des élèves conducteurs présents au centre Top Conduite ce mardi ont opté pour un permis manuel. Mais ils font partie des dernières générations pour lesquelles cela se justifie, selon Maël.
À l'heure actuelle, ça fait encore du sens de faire le permis en manuel, mais dans quelques années, ça sera un débat qui sera clos, à mon avis. On fera tous en automatique.
Après 2 échecs en passant le test de conduite avec une voiture manuelle, une élève a trouvé une utilité particulière à la réforme de 2018. Elle a obtenu le sésame avec une voiture automatique et elle conduit maintenant une manuelle dans sa vie quotidienne. Selon le moniteur de la vallée Pascal Etienne, la prudence est de mise, car conduire une voiture avec levier de vitesse ne s'improvise pas. Ainsi, quelques élèves lui ont demandé des heures de cours, le permis en poche, pour apprendre à conduire une voiture manuelle. De quoi peut-être regagner quelques heures de travail à l'avenir.
Le Stitch Club veut se diversifier. L'établissement de Lémontin ne sera pas qu'une discothèque à l'avenir. Le lieu veut devenir multifonction avec la possibilité d'accueillir des concerts, des humoristes, des défilés de mode et des spectacles en tout genre. Si le Stitch Club veut se diversifier, c'est en grande partie parce que la pandémie a assombri le futur proche des clubs. Les précisions de Michel Léoni.
Le Stage Club est et restera une discothèque avant toute chose, nous a précisé son patron Franco Vinciguerra. Reste que ce dernier estime que les clubs seront parmi les derniers lieux à rouvrir avec la pandémie. Du coup, quand ce sera possible, sanitairement parlant, le Stage Club deviendra un lieu de divertissement en tout genre avec des offres diversifiées, Franco Vinciguerra.
On va utiliser la salle comme une salle de spectacle, une salle polyvalente, où on pourra accueillir des concerts, des humoristes, des défilés de mode ou des shows en tout genre. On aura aussi la possibilité de diffuser des matchs. Ce sera une salle vraiment multifonction. On va essayer de faire le mieux possible pour avoir un mobilier facilement transportable pour pouvoir faire deux en un, en fait.
Que les habitués se rassurent, le Stage Club restera une discothèque et le redeviendra quand on sera débarrassé du coronavirus. Mais l'établissement de Les Montains continuera alors à accueillir des spectacles en tout genre parce que ça permet aussi d'ouvrir à d'autres moments que les vendredis et les samedis, d'après Franco Vinciguerra. Si le Covid-19 a précipité cette diversification du site, la fréquentation en baisse des discothèques l'explique également. Franco Vinciguerra affirme qu'il existe aujourd'hui beaucoup plus d'offres pour les jeunes qu'il y a 10 ans, ce qui les éloignait parfois des discothèques.
Il y avait déjà certaines choses qui étaient liées aux sorties de nuit et tout ça, avec les bars, les autorisations jusqu'à 3h du matin qui nous ont un petit peu touchés en discothèque. La discothèque était à l'époque un lieu où les jeunes se réunissaient pour danser, etc. Maintenant, ils peuvent le faire aussi dans les bars. Donc, c'est une approche différente.
D'après Franco Vinciguerra, le Stage Club a perdu 30% de sa clientèle du vendredi ces dernières années et la fréquentation a aussi un peu baissé le samedi. Mais celui qui est actif depuis 18 ans dans le monde de la nuit veut continuer à faire de son établissement un lieu de fête, de rire et d'émotion, quitte à dévier un peu de sa trajectoire initiale.
En Ajoie, le conseil communal de Grandfontaine est à nouveau au complet. Jessica Chariat, 42 ans, a été désignée pour remplacer le siège laissé vacant par Patrick Kikré. De son côté, Montfaucon a annoncé aujourd'hui le départ du conseiller communal Ronald Villiger. L'élu quittera ses fonctions à la fin du mois. Une élection complémentaire est prévue le 13 juin. Un panache de fumée noire et des flammes, les images sont violentes. Cet après-midi, un incendie s'est déclaré sur une route cantonale du Jura-Bernois. C'était entre Bévillard et Sorvilliers. Selon nos informations, une voiture aurait percuté un véhicule d'entretien avant de prendre feu. Le trafic a été perturbé, on ne sait pas si l'accident a fait des blessés. Rappelez-vous, c'était en novembre 2019. Le corps sans vie d'un homme était retrouvé dans une maison en feu à la rue Haute à Bienne. L'incendie s'était déclaré dans l'appartement du dessous. Son locataire a fait face au juge du tribunal Jura-Bernois-Zélande ce matin. Il doit répondre d'incendie intentionnel, éventuellement par négligence, et d'homicide par négligence. Olivier Zanon.
C'était un accident. Je suis profondément triste pour ce qui s'est passé. Le prévenu était affecté ce matin à l'ouverture de son procès. Ce 25 novembre 2019, en fin d'après-midi, il se trouvait chez lui dans son appartement à la rue Haute. Il explique avoir vidé un cendrier plein de mégots dans un sac en papier qui contenait des mouchoirs et journaux avant de quitter le logement. La suite dramatique, on la connaît. Le feu s'est répandu et une personne a trouvé la mort dans l'appartement situé au-dessus du foyer, intoxiqué au monoxyde de carbone. La question qui se et celle-ci, était-ce un acte intentionnel ou une négligence? L'expertise psychiatrique arrive à la conclusion que le prévenu était incapable d'apprécier le caractère illicite de ses actes. Il souffre d'un trouble psychique aigu avec schizophrénie paranoïde. Le ministère public en est conscient. Pour lui, l'irresponsabilité pénale est totale. La négligence prime donc. Et dans ce contexte, il est nécessaire, utile selon le procureur, de prononcer une mesure thérapeutique institutionnelle pour soigner le prévenu d'une part, aussi pour protéger la société civile. La défense, elle, se veut plus nuancée. Le lien de causalité entre le trouble mental et l'incendie n'est pas forcément établi. Des mégots dans un sac, l'acte est dangereux, mais répandu. Une négligence pure et simple, autrement dit. Que le prévenu ait besoin d'être soigné, l'avocat ne le conteste pas, bien au contraire. Selon lui, sur les faits reprochés, une mesure thérapeutique ne peut pas être prononcée, pas plus qu'une peine pénale. Un constat insatisfaisant humainement ou moralement, c'est selon, puisque le prévenu a vraisemblablement besoin d'être suivi, mais son sort n'a pas à être décidé par un tribunal pénal. D'autres voies doivent être activées.
En Suisse, la situation reste stable sur le front du Covid. L'Office fédéral de la santé publique fait état aujourd'hui de 1131 nouveaux cas, un chiffre similaire à ceux de la fin de la semaine passée. C'est la fin du blocage autour de la 5G, si l'on en croit Simonetta Sommaruga. La conseillère fédérale s'est réjouie aujourd'hui d'un nouveau développement dans le déploiement de cette technologie. L'exécutif a donné son feu vert aujourd'hui à l'utilisation de nouvelles antennes adaptatives. Les valeurs limites de rayonnement pourront être dépassées ponctuellement, ce qui est sans risque pour la santé, assure l'Office fédéral de l'environnement. L'entraide protestante suisse L'Épère veut atténuer les ravages du coronavirus. L'association a déployé plusieurs programmes à l'étranger, mais aussi en Suisse. L'Épère a fait le point aujourd'hui sur toutes ses actions, dont le plan Âge et Migration, qui s'adresse aux personnes immigrées en Suisse de plus de 55 ans en terre vaudoise et genevoise. Pour la responsable Elma Adzika Dunic, la crise sanitaire a accentué certains problèmes qui existaient déjà.
En tout cas, les personnes qui viennent nous voir dans le programme Âge et Migration présentent déjà à la base des vulnérabilités autant du point de vue de la santé, mais aussi du point de vue justement de se repérer dans un système qui est extrêmement complexe. Ce que le coronavirus a apporté, c'est qu'elle a mis en lumière en fait ces vulnérabilités et puis elle les a augmentées encore plus du fait qu'il n'y avait plus cette liberté de sortir de chez soi, de venir nous voir, d'avoir ce quotidien et puis ces repères hors la maison qui font que les personnes aient un rythme en dehors de ces vulnérabilités, si j'ose dire.
Faire circuler les informations, aussi bien en ce qui concerne les normes sanitaires que les possibilités d'aide, a été l'une des missions centrales de l'EPER. Un défi de taille en particulier pour une population pas forcément férue de nouvelles technologies. Et après un peu moins d'une année de réflexion, une solution a été trouvée. On retrouve Elma Adzika Dunic.
Il a fallu vraiment réfléchir à comment faire en sorte que le maximum de personnes soient informées, mais en un clic, sans avoir à ouvrir un compte. Donc du coup, mes collègues sont arrivés assez naturellement à cette idée de radio qui est beaucoup utilisée par ailleurs dans les programmes étrangers de l'EPER. Ce sera une web radio, comme une séance d'information en fait habituelle, mais ce sera par des podcasts qu'on pourra partager au maximum en faisant intervenir les spécialistes et en leur proposant l'information dans la langue d'origine.
La première émission sera diffusée le 13 mars. Dans l'intervalle, l'EPER relance également un appel à la solidarité avec une campagne de promotion. C'est la fin de ce journal. Je vous souhaite une excellente soirée.
Météo News annonce une soirée et une nuit calme, un temps sec et demain il y aura quelques brumes matinales qui vont rapidement se dissiper. Le soleil sera généreux, les températures toujours en dessus des normes saisonnières. Le matin, elles oscilleront entre 1 et 2 degrés, grimperont au meilleur de la journée jusqu'à 18 degrés en pleine et 16 sur la hauteur. Ces belles conditions vont perdurer avec toutefois l'arrivée vendredi d'une perturbation et des averses annoncées par Météo News en toute région.